Je ne sais pas si on va être en mesure de parler dans les prochaines minutes, puisque il se passe de quoi à Expo Cité. C'est la grande foire de Québec. Dans le temps, on appelait ça Expo Québec. On a eu du plaisir là comme pas possible. C'est encore possible d'avoir du plaisir là, même si c'est un peu plus petit. C'est la belle gang de Beauce Carnaval qui est à Québec avec les jeux, les manèges, les saltimbanques aussi qui sont là. C'est le fun de les voir. Il y en a qui vont aller manger la fameuse barbe à papa ou encore la fameuse pomme de cire au centre de foire. Puis Mathieu Thomassin, je pense qu'il est directement sur place ou a l'intention d'y aller. Là, il me parlait ce matin qu'il regardait les prix.
Non, c'est pas un forain qui va nous faire jouer à un jeu quelconque, mais c'est sûr qu'on perd notre argent.
Hey, toi, viens ici!
C'est toujours meilleur!
Je vais te donner un tatou, viens ici!
Un gros tatou de Mickey Mouse.
Ben, ça va, Mathieu Thomassin?
Ah, ça va bien, mais là, j'ai le goût de faire un tour de Gravitron. Tu sais, la genre de soucoupe là, qui tournait, là, t'avais du bait à l'intérieur.
Ah oui!
Les bains étaient comme pas vraiment attaché. Puis là, avec la rotation, la gravité t'amenant l'air, là, le petit Timmy à côté, il vomissait, mon gars, là, puis tout le monde n'avait d'en face en tournant, c'était malade mental.
Ouais. Le graviton était devenu le vomiton.
Oui.
C'est vrai, pour vrai, les gens l'appelaient de même. Tu collais ses murs.
Il y avait une odeur là, là-dedans, là, tu sais, c'était un mélange d'eau de Javel, puis tu le savais qu'il est arrivé quelques expériences okay, spéciales. Ah oui, écoute, ça, c'était l'odeur. Je me rappelle encore comme étant kid. Et mon dernier tour à Expo Québec, tu sais, t'avais la foire alimentaire. Fait que là, tu te promenais là, t'allais chercher un paquet là, de petits testeurs de goût. Là, tu sais, c'était comme précurseur au Costco là, dans les allées. Là. Et là, on mangeait. Puis à un moment donné, on est allé faire, là, je me rappelle plus le manège, c'était comme une genre de pomme ou de soucoupe. Ça tournait sur soi-même, puis là, ça tournait aussi sur le palier. Hey mon gars, j'ai gâté la soucoupe comme ça se peut pas. Et une chance qu'il y avait une poubelle proche après. Et ça a été ma dernière expérience. Et c'est là que j'ai reconnu que je pouvais pas piloter un F-16 comme dans Top Gun ou un F-14.
Non,
là,
j'allais
terminé pour moi.
Ouais, j'allais dans une petite fermette. J'aimais bien ça, aller dans une petite fermette. Il y avait aussi une exposition de vaches bovines. Là, de
ça,
bovins.
C'est là t'allais, toi?
Oui, mais je regardais ça. Il y a des passionnés. Il y en a là, qui traitent leurs vaches aux petits oignons pour les compétitions et tout ça.
Mieux que leur femme.
Ben, écoute, c'est pas juste le côté des animaux, c'était la machinerie agricole. C'était un festival agricole à la base aussi. Non seulement des poules, des lapins, des n'importe quoi, qui, dans lequel un agriculteur avait une fierté aussi de montrer. Et non seulement, quand tu gagnais un prix Expo Québec, là, c'était quelque chose dans le temps.
Oui, mais c'est encore un peu ça dans les foires. Mais il y avait une affaire, les gars, je ne sais pas si vous allez vous souvenir, moi, ce qui me fascinait le plus, c'est qu'ils exposaient la Maison Tanguay. C'était-tu la Maison Tanguay?
Oui.
Puis tu pouvais faire
on
un tour
visiter,
dedans.
Ben oui.
Puis là, tu allais là en famille, puis tu pensais que ta vie allait changer dans 2 mois, puis tu choisissais ta chambre. Puis ça faisait rêver, ça, là.
Exact. Et on n'oublie pas le zipper aussi. Donc, Pascal, si jamais tu as eu une date et il t'invite à aller dans le zipper, attache ta tuque. Quand la cage était fermée, c'était terminé.
Ouais. Les forains qui opéraient le zipper, ça, c'était ceux qui étaient les plus riches parce que dans le temps, tout le monde avait de la monnaie dans les poches. Puis je te le dis, descendait. Tu perdais ta monnaie. Fait que les autres en bas, pendant que le manège tournait, ils ramassaient leur pognon.
Oh là là, c'était leur type non voulu.
Ouais. C'était incroyable.
Les carnies, il y avait toujours bien de l'argent, mais les carnies n'avaient pas beaucoup de dents. Ça, c'était spécial.
Ouais, il y avait ça. Mais je cherche encore ceux qui mangent des pommes de tir. J'ai jamais compris le principe de te péter les dents pour manger une pomme. Là.
Aimez-vous vraiment ça?
S'ils en vendaient, ça devait être parce qu'il y en a qui voulaient en acheter. Il y avait les fameuses queues de castor aussi que je trouvais
ça,
juste
bon.
Exceptionnelles.
C'est encore bon.
C'est cochon en
bout. C'est tellement bon. Puis moi, je veux jamais partager.
Ta préférée, c'était à quoi?
Noisette.
Moi, c'était au Baluet.
Au Bleuet?
Au Baluet, oui.
C'est-tu celle qui avait de l'érable aussi, là?
Ça se peut. Je sais pas. J'aimais ça. Ça goûtait le beurre et le Baluet. J'adorais ça.
En tout cas, une chose est sûre, ça rappelle de bons souvenirs. Puis je te dirais que ça marquait aussi la fin de l'été. C'était comme le retour à l'école
c'est vrai.
Qui s'en venait. Donc, un peu de nostalgie aujourd'hui.
Fait qu'on se croise-tu là à soir, c'est ça, là?
Ben, allons faire un tour, mon gars. Mes sacs sont prêts, là. Les petits sacs roses que la ville distribue. On va m'en mettre 3-4 dans les poches, puis je suis prêt.
Vous allez là, les deux gars, avec vos enfants.
Mathieu n'a pas d'enfants, il veut tout le temps emprunter les miens.
Ouais, envoyez dans la minivan à tester, puis donne-moi celui-là qui pleure le plus, mais dès que la couche est pleine, je te le remets comme s'il n'avait jamais été touché.
C'est ça, puis son speech tout le temps, mes gars me l'ont dit, c'est « Mon oncle Mathieu dit tout le temps qu'il est veuf, qu'est-ce que ça veut dire, papa? » Mathieu Thomasson, chroniqueur automobile, on parle du plus petit camion au monde qui est pas cher, 28 000 piastres.
Ben écoute, c'est effectivement un retour aux sources et c'est la compagnie Slate qui a décidé de lancer le petit camion électrique américain. Il semblerait que tout le monde l'attend. En fait, c'est une start-up qui est soutenue par Jeff Bezos et qui promet un camion très simple, modulable, abordable, qui est capable de séduire ceux qui en ont assez là, des voitures suréquipées beaucoup trop chères. Et présentement, c'est au-dessus de 100 000 réservations en seulement 2 semaines. Puis l'enthousiasme est vraiment réel.
Okay.
Le véhicule de base, c'est quoi? C'est un petit camion 2 portes, 2 sièges, propulsion arrière. L'intérieur, il est tellement minimaliste que les commandes sont manuelles. Et non seulement le système multimédia, c'est lorsque tu insères ton téléphone à l'intérieur. Une autonomie qui peut varier entre 241 km et 386 avec une batterie optionnelle. Et bien entendu, il y a de la sécurité complète avec caméra avant-arrière, freinage d'urgence. Le concept clé, c'est qu'il y a un seul modèle qui est fabriqué à l'identique pour réduire les coûts, mais entièrement personnalisable avec au-dessus de 100 accessoires, puis un kit pour transformer le camion en SUV. Slate met même des genres de tutoriels en ligne, là, des do-it-yourself pour les installations. Présentement, on fabriquerait le tout en Indiana avec une capacité prévue de 150 000 unités d'ici la fin 2027. Et ce qui est intéressant, c'est le prix. Bon, avant le prix tarif, on voulait annoncer ce camion-là à 20 000 $ US, qui est environ 28 000 $ canadiens. Mais là, on s'est ajusté, hein, parce que veux pas, il y a de l'impact avec tout ce qui est de la politique. On parle de 25 000 $ US, qui est quand même 35 000 $ canadiens. Sans subvention, sans patente. Là. Donc, nous, si on réussit à appliquer ça, ça risque d'être intéressant. Ça vise les conducteurs qui ont juste besoin d'un véhicule fiable pour rouler les trajets quotidiens. Tu sais, on entend souvent parler de deuxième véhicule. Et regardez autour de vous quand vous êtes sur l'autoroute capitale le matin là, ou encore le soir, combien de personnes sont seules. Tu sais, l'histoire de traîner les enfants de Marceau tout le temps, là, bon, écoute, une fois de temps en temps, ça va, certes. Mais si on parle d'un deuxième véhicule pour un déplacement, que ce soit pour le travail, pendant le temps que le premier s'en va justement courir le Costco ou encore le terrain de soccer ou encore peu importe la journée, ça peut être très intéressant et surtout très abordable. Écoute, on n'a même pas de vitre électrique à l'intérieur et on vise vraiment juste les conducteurs qui ont besoin de quoi de fiable pour les trajets quotidiens.
Mais la boîte est ouverte. La boîte est ouverte. C'est un mini-camion. La boîte est ouverte. Tu peux vraiment... pas faire autre chose que mettre quelque chose dans une boîte qui est ouverte. Je suis pas sûr de catcher.
Attention, tu as des accessoires qui le tournent en véhicule sport utilitaire avec une autre rangée à l'arrière.
Ouais, tu peux le mettre en quatre places, c'est ça, puis c'est comme une boîte fermée, un peu comme les Wrangler. Okay. Il peut devenir comme un Wrangler, mettons.
Okay.
C'est ça, exactement. Je t'invite à te rendre sur Question Auto si jamais tu veux voir des images, Pascal. Tu sais, le site, la référence du côté de Québec.
Ouais. Yannick vient me l'ouvrir avec élégance.
Mais tu sais, moi j'aime ça, ce type de camion-là, parce que ça sort de l'ordinaire, là, mais j'ai l'impression que les gens vont dire, on dirait un camion qui a été inventé pour le jeu Fortnite.
Bien, ça, c'est sûr que là, on peut se poser un tas de questions. Bon, est-ce que le prix va rester vraiment compétitif? On sait que Tesla nous a déçus de nombreuses manières, ainsi que d'autres compagnies. Un camion minimaliste avec 2 portes propulsion, ça va-tu vraiment suffire pour la base, pour le quotidien? Non seulement est-ce que ce type-là de véhicule va réussir à séduire les gens qui cherchent une alternative, parce que quand tu regardes aussi la compétition, bon, c'est sûr que tu as le petit Mitsubishi Mirage qui est un des véhicules les plus abordables. Tu as quand même le Ford Maverick qui est similaire, mais qui nous permettrait de dépenser un petit peu plus pour accéder à quand même quelque chose d'intéressant. La communauté est certes enthousiaste. C'est sûr que là, ils n'ont pas l'hiver comme nous autres, puis je vois vous en venir là, gros comme le bras. Mais dites-vous que dans le temps, là, on se promenait avec un paquet de véhicules propulsion avec des poches de sable dans la boîte, puis ça faisait la job pareil. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on est tellement allergique à voir 3 cm de neige à terre, on crie au scandale, vite la charrue, il faut qu'elle passe. On maintient beaucoup plus les rues mieux qu'auparavant. Donc, le succès va vraiment dépendre de la compétitivité du prix et de l'acceptation de la configuration minimale que ces gens-là sont prêts à mettre. Mais le gros truc aussi qui est important, c'est que développer des plateformes comme ça, ça prend énormément d'argent. Donc, si tu n'as pas besoin d'une usine à peinture, si tu n'as pas besoin vraiment aussi de faire 18 modèles différents. N'oubliez pas là, que les configurations différentes au niveau d'un F-150, ça n'a pas de bon sens du côté de de Ford. Tu te ramasses avec une camionnette qui peut avoir tant un style différent, mais que tu peux avoir des motorisations différentes, des rapports de différentiels différents, des pneus différents. Écoute, le dernier coup que j'écoutais Ford, si on mélangeait toutes les possibilités, je me demande si ce n'était pas au-dessus de 100 000 propositions. En tout cas, il faudrait que j'en valide mes chiffres, mes notes. Et dites-vous que c'est imposant. Et c'est ça qui coûte cher aussi à un manufacturier. Dernière affaire, je reviens des États-Unis et je n'en reviens pas de la différence de prix. Là-bas, ils sont capables de louer un camion bien équipé pour 400 $ par mois, 0%. Il y a des rabais tout partout. Je suis en train de me demander qu'est-ce qui se passe avec nos manufacturiers canadiens qui nous salent ça à côté. Fait que de voir un véhicule abordable comme le Slate, je trouve ça intéressant. Est-ce que je l'achèterais demain matin? Moi, non. Je vais encore garder mon Tundra là, pour l'instant.
All right. Est-ce que la vente des Gladiators 2026 va bien? Parce que là, je vois qu'il semblerait qu'on ait mis une baisse de prix dessus.
Oui, effectivement, il y a quand même une bonne baisse de prix. On parle de rabais là, allant jusqu'à 11 400 $ pour les nouveaux Gladiators. Les Gladiators, en passant, là, faut pas oublier qu'un modèle d'entrée qui est le modèle S, qui se détaille aux alentours de 53 000 $ mais il faut pas oublier que qu'est-ce qu'on a vu au travers du temps, c'est le prix des Jeeps qui a explosé de tout bord, de tout côté. Donc, ce qui se devait d'être des véhicules abordables auparavant ont explosé et c'est ça qui a causé le ralentissement du côté de Jeep, du côté de Stellantis. Et on remarque aussi qu'il y a encore des concessionnaires dernièrement qui ont mis la clé dans la porte. Vous le savez, il y a le fameux concessionnaire du côté de Charlebourg qui ont dit merci, au revoir. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y en a eu un très gros du côté de Drummondville qui a fermé. Et c'était c'était tout près de 68 ans qui étaient en affaires, cette concession-là. Et on parlait justement du côté, bon, tant au niveau de l'abolition de subventions, les tarifs douaniers, l'incertitude, mais aussi le fait que les enjeux économiques aujourd'hui ont changé. Fait que est-ce que ça va être assez pour sauver le Gladiator présentement? Je vais être franc avec toi, je le sais pas trop.
Mais c'est-tu le prix de l'essence qui achale les gens? Parce que, tu sais, peu importe, là, n'importe quel chum, là, quand on passe à côté d'un Gladiator Rubicon, là, on tombe sous son charme à chaque fois. Là, c'est le gros modèle des Jeep Gladiator, là, le Rubicon X. Tu le regardes et tu dis, OK, c'est mon véhicule de rêve. Qu'est-ce qui fait que les gens se rebutent à ça? C'est-tu la consommation d'essence, les prix de l'essence qui sont trop élevés?
C'est un peu un tout. Il ne faut pas oublier que lorsque tu achètes un véhicule comme ça, si ton prix finit aux alentours de 70 000 $ ça fait quand même assez mal. Habituellement, tu le veux le plus équipé possible. Tu as justement parlé de modèle Rubicon. Il n'est pas rare de voir des prix de 80 000 bâtons qui vont être associés à ces différents modèles-là. Un Rubicon X, par exemple, on parle de 86 685 $ PDSF. Et on a quand même, avec la réduction, descendu à 78 585. C'est pas très hot en tant que réduction. Faut pas oublier qu'avant, il y avait une panoplie de programmes aussi, rabais manufacturier, rabais employé, rabais tout ce que tu veux. Pour ta question au niveau du prix de l'essence, le prix de l'essence est énormément variable présentement à l'intérieur de la province. Du côté de Gatineau, on parle de 1,32 $ l'essence. Pour un litre. On se dirige du côté des États-Unis. Aïe, aïe, on est ailleurs. Direction Montréal, le meilleur prix est à 1,42 $ aux alentours de. Si on se dirige par Québec, du côté de Québec, le prix Costco est très agressif à 1,41,9 $. Vous me corrigerez si jamais. Mais dès qu'on se retourne dans une station proche de Beauport ou encore proche, je ne sais pas, moi, de Fossambault ou autre, il n'est pas rare d'avoir du 1,52 $ présentement. Donc, la variation, ça peut jouer dépendamment de l'emplacement que tu restes. Et est-ce que ces moteurs-là consomment? Bon, écoute, quand on parle du V6, là, le fameux Pentastar, c'est quand même pas si pire. Jumelé à la transmission 8 rapports, tu as une bonne capacité de remorquage aussi au travers de tout ça. Si tu y vas mollo, c'est pas tant pire, mais c'est pas un exemple de consommation extrême. Et il faut pas oublier cependant que dès qu'on va charger, aller en route, là, ça va le devenir. Et même si on avait un modèle qui était même 4x1 pour certains Jeep, la fiabilité des Gremlins n'était pas tout à fait encore réglée. Donc, ce qui se passe, c'est que tu n'as pas une fiabilité non plus qui est extrême. Puis quand tu dépenses maintenant 68 000 ou encore même, là, allez-y avec le rabais à 58 000 plus taxes, plus ci, plus ça, plus financement, tu t'attends à une expérience digne que tu ne retourneras pas souvent au garage. Et le problème avec les véhicules d'aujourd'hui, c'est qu'on y retourne pour pas grand-chose. Terminer le temps de changer une simple ampoule. Je me répète, hein, comme un vieux, je radote. Et je vous dis tout de suite, si vous avez un vieux véhicule que vous aimez, que vous voulez conserver, dites-vous que vous êtes encore capable de l'entretenir. La journée que vous allez vouloir changer une ampoule en avant là, dans un Kia V9, voire même hier, je suivais, si je ne me trompe pas, un Sportage, le phare qui est comme une barre de LED au complet à l'arrière, d'un côté complètement brûlé. Je vous le dis tout de suite, ça ne se remplace pas comme une petite ampoule. Vous allez mettre la main dans votre poche, ça n'aura pas de bon sens.
Il y a des auditeurs qui me demandent, Matt, puis c'est pas la première fois que je vois la question passer, là, mais je vais te poser cette question-là. Il y a un concessionnaire à Drummondville qui ferme. Qu'est-ce qui fait en sorte que les concessionnaires ferment? On a eu un à Québec, là, dans le haut de Henri Bourassa, je ne me trompe pas, qui a fermé aussi. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un concessionnaire ferme? Dans ce cas-ci, c'est un concessionnaire Dodge à Drummondville.
Oui, effectivement, du côté, c'est justement celui-là que je te mentionnais tantôt. C'était un concessionnaire avec au-dessus de 68 ans d'existence au niveau de cette bannière-là. Et ce qu'il disait du côté du message, c'est que le secteur d'activité était présentement dans une genre de période charnière, soit l'électrification, l'abolition des subventions, les tarifs douaniers, l'incertitude, toutes les perturbations économiques qui ont amené la concession à une réflexion quant à la pertinence de continuer leur opération. L'industrie automobile, c'est le noyau souvent de l'économie. Puis dès qu'il y a des perturbations, c'est là quand même que ça frappe quand même en premier. Il ne faut pas oublier cependant qu'au travers la gamme, on a fait des choix particuliers au travers du temps. Qu'est-ce qui se vendait bien? Le RAM classique, la fameuse caravane. On avait même dans le temps des véhicules qui étaient abordables. Bon, pas les plus fiables, mais on peut penser à un 200. C'était pas nécessairement vargeux, mais devinez quoi, c'était cheap pour les familles. Il y avait souvent aussi plein de flottes de location là, qui embarquaient avec tout ça. Et malheureusement, au travers le temps, tout a pas mal baissé. C'est sûr que quand les produits sont au prix de fou, n'innovent pas, aïe aïe, ça fait mal à la concession. Puis regardez un peu qu'est-ce qui s'est passé au travers du temps. On voulait joindre Fiat à ça. On voulait joindre Alfa Romeo à tout ça. Il y a des concessionnaires locaux là, qui ont dépensé de la grosse, grosse argent. Et je lis de plus en plus que les nouvelles générations de jeunes remettent beaucoup en cause le modèle d'une concession. Beaucoup vont aimer magasiner sur Internet, beaucoup moins vont apprécier essayer le véhicule. Cependant, on se rend compte que certains nouveaux joueurs, comme disons VinFast ou autre, ont des endroits de démonstration, te permettent d'avoir un véhicule en essai un certain temps. Ça fonctionne plus comme avant au niveau du désir des jeunes. Et ça, si j'étais une concession actuellement, présentement, j'y penserais très fort à comment évoluer. Parce qu'encore dernièrement, un de mes collègues, d'ailleurs, je le salue, là, je l'appelle Capitaine Tupperware, mais Topper Dave, là, pour être plus précis. Dave, il est allé en concession et il est rentré dans une concession et il avait encore la bonne vieille expérience des années 1980 sur place, c'est-à-dire avec trois, quatre vendeurs qui disent un peu n'importe quoi, puis que tu sais que ça fonctionne à tour de roue dans la place, puis que tu le sens, plutôt que d'avoir une expérience qui est digne de payer un 50 000 $ avec un véhicule. Et non seulement qu'aujourd'hui, le service est plus que nécessaire quand tu veux te démarquer. Donc, je crois qu'il y a une conscientisation qui est à faire. Et en passant, là, quand même, là, je souhaite que le meilleur là, à toutes les personnes qui étaient employées, parce que oui, ça fait virer énormément l'économie d'une concession et non seulement le monde automobile.
Pneus à clous ou pneus d'hiver simples, qu'est-ce que tu
Et boy,
privilégies?
dis-moi, on est d'avance
Ben,
un
il y
petit
en a
peu
qui se
pour cette
préparent d'avance. Je veux
question-là.
dire, ça coûte quand même une petite fortune, les pneus neufs. Fait qu'il faut que tu te prévoies d'avance. C'est Carl qui te pose cette question-là.
Bon, ben allons-y. Le pneu à crampons, c'est quoi? C'est que souvent, on a des petits clous installés souvent d'usine par les compagnies de pneus. Il y a encore de l'installation maison, mais je te dirais de moins en moins, parce que veux, veux pas, là, le prix a changé avec le temps. C'est quoi l'avantage d'un pneu à crampon? C'est l'adhérence maximum sur la glace, meilleure sécurité aussi dès qu'il va avoir des conditions un peu de verglas. L'inconvénient, dépendant du manufacturier, reste toujours un petit bruit un peu plus élevé, une usure plus rapide si jamais tu as une cour ou encore un garage en béton, je te le dis, ça fait mal. Et il y en a encore des modèles de pneus qui ont une adhérence moindre sur asphalte sec ou mouillé. Il ne faut pas oublier les restrictions légales. Un pneu d'hiver sans crampon va être quand même polyvalent, plus confortable, n'aura pas de restrictions d'utilisation pour crampons, mais cependant va être beaucoup moins performant sur la glace vive. Donc, je n'ai pas le modèle du véhicule, je n'ai pas le détail non plus des dimensions, mais moi, le climat du Québec, là, c'est tellement le pire climat au monde, là, tant qu'à moi, dans mon dictionnaire, là, tu te réveilles, une journée, il fait plus 10, le lendemain, il fait moins 30, toute la petite eau coulante a gelé, tu as des plaques de glace tout partout. Si tu n'as pas de restrictions de béton, de condo, ou d'aller travailler dans un souterrain qui dit pas pneu, ça, en passant, désolé, petit Jésus de l'automobile, mais une fois de temps en temps, je me gâte à Montréal, pareil, là, à rentrer d'un stationnement, là, qui sait, je payerai peut-être un jour, là. Mais je vais être franc avec toi, je suis un maniaque des crampons là, au travers de ça. Là.
Ben c'est ça, tu sais, moi, je si j'avais pas à passer une bonne partie de ma vie dans un stationnement souterrain, ce serait des pneus à clous sans aucun problème.
Là. Ouais, puis tu sais, il faut faire bien attention parce qu'un pneu de qualité va avoir des performances très similaires, peu importe la condition de la route, qu'elle soit cramponnée ou non. Un pneu un peu plus cheap va avoir une résonance incroyable de bruit. Puis je te le dis tout de suite, c'est un petit Subaru Crosstrek qui est mal insonorisé. On le sait, c'est pas les meilleurs dans ce coin-là, mais c'est les meilleurs traction intégrale. Tu vas te ramasser avec l'impression que tu as 4 bearings finis quand tu vas justement t'en aller dans le coin de Montréal, puis ça va être de l'asphalte. Cependant, n'oubliez pas une chose, quand vous allez frapper une glace vive, vous allez avoir le pied au fond, c'est break, vous allez être content en tabarouette d'avoir les grippes supplémentaires pour arrêter le véhicule.
Mathieu Thomassin, on te retrouve sur Question Auto, Car Question sur YouTube ou encore sur les réseaux sociaux.
Oui, monsieur, exactement. Direction sur YouTube, dans les dernières vidéos qu'on a affichées. Premièrement, on a fait l'essai du nouveau Subaru Solterra. Allez voir sur TikTok, allez voir sur Facebook, je vous ai mis un petit vidéo vertical de tout ça. Puis pour le reste, ben écoutez, venez me jaser, écrivez-moi, ça va me faire plaisir toujours de répondre à vos questions. J'ai l'air un peu spécial sur ma photo de profil, un peu dans un pays du Sud, mais ça fait partie de la vie. Puis sinon, moi, je vais avoir mon bracelet là, pour les manèges. Là, fait que si vous voyez un gars qui vomit d'une poubelle après un tour du zipper, ben ça va être sûrement moi.
Ah ouais, t'en vas à Beauce Carnaval, juste à côté du centre de foire. Salut!
Yes, sir. Salut, bye.
Ben, mon ami. Le 26 août prochain, les capitales de Québec vont être en action pour la soirée Boulevard 102.1 à compter de 19h. Pascal, je pense que tu vas être présente. Moi, je vais être là, dis-moi, parce que je fais le lancer officiel. Là, j'ai un problème de coude. Là. Je ne sais pas si je vais me rendre jusqu'au
Il est en train de dire à chaque jour qu'il va être le meilleur, que ça va être à 80 km/h.
Non, 80 000 à l'heure.
À 1000 à l'heure. Et, ouais. Là, soudainement, il a mal au coude.
Je pense que je peux monter jusqu'à 90, mais après ça, je ne rentre pas travailler le lendemain, c'est sûr. Il va y avoir la Squad Boulevard qui va être sur place. Il va y avoir des jeux aussi. Donc, toute l'équipe de Boulevard va être là. Puis, on offre des billets pour toute la semaine pour être sûr, certain qu'on soit la belle gang de Boulevard, tout assis ensemble dans la zone Kepler. Et dans la zone Kepler, avec ce que je vous offre présentement, ben on vous offre gratuitement 3 consommations, popcorn, puis bien sûr, les billets pour rentrer au match. C'est contre les Miners de Sussex. D'ailleurs, les billets sont toujours en vente. Et on va vivre ensemble l'ambiance du stade.
Toujours le fun, des belles
soirées. C'est 12$ le billet, donc c'est pas cher. Moi, je vous en offre gratuitement à l'instant, plus les consommations. Et la nourriture est à seulement 3$ aussi pour ceux qui n'auront pas gagné leur billet. Donc, on ne se ruinera pas au stade avec les capitales. Puis ensuite, on a tout un spectacle à Québec. Pascal va choisir le mot de passe. Le texto, c'est le 418-971-1021. 418-971-1021.
Hot dog!
Boulevard 102.1. Marceau.